Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve chaque semaine. Oui, je sais, c'est pas assez, moi aussi j'aimerais être là tous les jours, mais c'est compliqué de trouver une personnalité connue tous les jours pour parler de tous ces sujets inconnus qui nous réunissent sur cette web radio qui nous passionne. Bob vous dit toute la vérité et puis beaucoup d'autres émissions sur cette web radio. Allez-y, écoutez, testez, les premières minutes de cette émission sont en libre accès, donc vous êtes peut-être en train de m'écouter alors que vous n'êtes pas abonné. Prenez le podcast en entier, vous ne serez pas déçus, je vous le garantie, puis les autres émissions, allez-y, essayez, nous essayez, c'est nous adopter. Voilà, c'est bien dit. Bonjour Mathieu, ça va?
Ça va très très bien.
Il est là, il est partout. 21h, comme d'habitude, 20h, tous les jours.
Voilà.
On parlera de toutes les émissions tout au long de cette émission. Notre invité aujourd'hui, c'est la première fois qu'on aura un joli accent dans cette émission, c'est Louise Eklund. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour
c'est
tout le monde.
C'est un vrai bonheur de te recevoir dans cette émission.
Merci beaucoup.
D'abord parce que je trouve que tu es l'image même de la personne positive, qui dégage quelque chose de vraiment positif, c'est le terme, que ce soit à l'antenne ou dans la vie, puisque on s'est connus en 2008 sur une radio qui s'appelait Europe 1 Sport.
C'est ça.
Il y avait Bob d'ailleurs sur cette radio.
Oui.
Tu débutais juste et c'est à partir de 2008 où tu as été sur France Télévisions. Parce qu'il faut vous dire que Louise Eklund, c'est l'animatrice qui monte dans le paysage audiovisuel français en ce moment. Donc sur une radio FM nationale RTL2 tous les matins.
C'est ça, entre 6h et 9h avec Christophe Nicolas pour le Grand Morning.
Ouais, c'est levé tôt, 4h et elle est là quand même, ça nous fait très plaisir,
oui.
Merci beaucoup.
Oui,
et puis France Télévisions après D8 et après BFM, tu as fait beaucoup d'antennes, France Télévisions depuis 2008, alors d'une façon moins fréquente parce que tu as eu un petit garçon en août, mais tu aurais pu être à Sochi, tu aurais pu être sur le Paris-Dakar, mais t'as pris un petit peu de recul pour t'occuper de ton bébé.
C'est un peu normal parce que je pense que quand on accouche, c'est juste la chose la plus merveilleuse qui nous arrive et donc on a envie d'en profiter. Et puis je venais de commencer la radio, ils m'ont attendu, ils m'ont laissé ma chance. Ils se sont dit, bon, écoute, t'es enceinte, c'est génial, on t'attend jusqu'au 15 octobre. J'ai démarré le 15 octobre, donc je leur devais ça quand même. J'aurais pu demander de partir, mais partir 18 jours de mon petit Sacha, c'était un peu compliqué, je trouvais.
C'est pas la classe de s'entendre dire, on t'attend, vas-y, prends ton temps, c'est beau ça.
Hein, ça n'arrive presque jamais, donc je les remercie pour ça, parce que c'est quand même tellement rare. Et je pense qu'il y avait une vraie volonté de travailler avec moi, parce que j'avais remplacé Agathe Le Caron pendant quelques semaines, et ils m'ont dit, bon écoute, on t'attend, on sait que ça se passe bien avec Christophe, parce que c'est pas facile de trouver un duo qui marche tout de suite, et on a eu un bon feeling, donc voilà, j'y suis, je m'éclate.
Ouais, c'est bien, ça s'entend. Donc les connus face à l'inconnu. Alors première question que je pose à tous les invités, qu'est-ce que l'inconnu pour toi et quels sont les sentiments, les émotions qui accompagnent l'inconnu dont tu vas nous parler?
L'inconnu, c'est mystérieux, c'est positif, ça me fait peur.
C'est positif, mais ça te fait peur.
Disons que ça peut être toutes ces choses-là pour moi. Disons que l'inconnu, c'est parfois toujours un petit peu d'appréhension avant. L'inconnu, c'est un... On parle physiquement d'une personne ou on parle de l'inconnu en
général ?
De
l'inconnu, qu'est-ce que tu mets derrière le mot inconnu ? Ça peut être l'inconnu de la vie, l'inconnu de la médiumnité, l'inconnu du lendemain, la peur du lendemain ou au contraire l'exaltation face à cet inconnu ?
C'est un peu tout ça en fait pour moi. Disons que parfois quand on doit faire face à une situation et qu'on n'a jamais été dans cette situation-là, du coup c'est effrayant, mais il se trouve que ça se passe hyper bien, que tu passes un bon moment. Enfin, c'est un peu aussi l'excitation, la peur, la joie, c'est toutes ces émotions réunies. C'est excitant, moi j'aime bien l'imprévu. Mais je suis quelqu'un de très bien organisé, par exemple dans le travail. S'il y a de l'inconnu, de l'imprévu, je vais peut-être être un peu déstabilisée. Donc,
Et pourtant, dans nos métiers, il y en a beaucoup d'inconnus. Parce que l'inconnu de l'année d'après, on ne sait pas si on va continuer.
Ouais, mais je pense que je le vis un peu mal, ce côté-là.
Cette promiscuité.
Ouais, parce que je pense qu'on sort de nos sentiers battus constamment. On a toujours, il y a une nouvelle expérience qui va arriver, un nouveau travail. Il faut rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, ça change complètement à chaque fois. Alors ça m'excite, mais aussi ça peut être angoissant.
Cet inconnu te fait peur. Et quand on a un enfant, il y a plein d'inconnus derrière.
C'est sûr.
Tous les jours, il y a un inconnu. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va être heureux? Quand il va grandir, qu'est-ce que je vais faire? Quel monde je vais lui laisser?
Ouais, je pense que c'est assez extraordinaire quand ça te tombe dessus. Tu te dis, oh là là, la responsabilité. Ça, c'est la première chose. On se dit, wow. Et c'est pas le baby blues pour moi, parce que je l'ai pas eu. Mais en revanche, j'ai eu cette prise de conscience. Et je suis responsable de cette petite vie. Et je vais devoir m'en occuper et le soigner, l'aider, l'éduquer. Et c'est assez... Waouh, c'est, hein, c'est gros.
Ça, c'est gros. C'est énorme. Et comme disait mon père, de toute façon, quand on a un enfant... Bon, on s'inquiète juste les 40 premières années. Après, ça va un petit peu mieux.
Oui, c'est clair.
C'est un petit
c'est
peu
clair.
Ça.
Je pense qu'on s'arrête jamais. On s'arrête jamais.
Il s'appelle Sacha, il est né le 22 août. Alors, question, tiens, Louise. Passer un petit peu d'une sorte d'insouciance à une sorte de grande responsabilité en tant que parent, il faut l'avoir, cette responsabilité. Tu as quand même donné la vie. Quand on porte la vie, quand on la donne, est-ce que après, on voit cette vie différemment. Est-ce qu'on se dit, bah, finalement, il doit y avoir quelque chose avant, quelque chose après, c'est pas possible, il vient d'où? Comment tu la perçois, cette vie maintenant terrestre?
C'est très intéressant ce que tu me dis, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'émotions et t'arrives pas forcément à mettre des mots dessus. Et là, tu me forces à mettre des mots dessus, donc, enfin, tu me forces pas, mais tu me demandes de mettre.
Je ne la menace pas.
Non, pas
non,
encore,
mais c'est vrai que je t'interroge parce que.
Non. Ouais, bah oui, effectivement, on voit la vie différemment.
Est-ce que pour toi maintenant, il y a quelque chose avant? Est-ce qu'il vient de quelque part?
Ah bah moi, je suis croyante. Donc, je suis croyante, je suis chrétienne, je vais à l'église. Enfin, je suis quelqu'un de spirituel, si c'est le mot, mais je crois en Dieu. Donc oui, c'est un cadeau qui m'est donné et il est bien choisi pour moi. C'est mon enfant et c'est Dieu qui me l'a donné. C'est comme ça que j'aperçois les choses.
D'accord.
Tout ce qui est, comment dire, enfin pour moi c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie, ouais. De un. Oui, derrière, je laisse l'insouciance.
Ouais, il y a une partie d'insouciance qui part, hein, forcément.
Ouais, hein. Je laisse. Ouais. Je pense que totalement, on vit pour notre enfant, on réfléchit à lui 24/24. Au début, je me disais, oulala, c'est chaud quand même, parce que tous les jours, je sortais, je me disais, je le laisse avec quelqu'un, comment je vais pouvoir faire confiance? Ça, c'est très compliqué au début. Mais maintenant, il a 7 mois, donc ça fait quand même quelques mois qu'il est avec sa nounou. Elle est extraordinaire.
Tu laisses une caméra de surveillance, tu fais attention,
jamais.
Tu regardes Internet le soir. Il y a des
jamais,
films là-dessus qui font peur.
Oui,
il y en a,
bah,
ouais, bien sûr.
Et puis pour certains, bah, j'imagine que ça les rassure beaucoup, mais bon, enfin, moi, j'ai confiance en elle.
Donc tu es très croyante, catholique, il y a une vie...
Protestante,
puisque née à Liverpool,
oui, hein,
22 juillet, donc protestante. Et donc il y a une vie avant, après, la vie terrestre est un passage.
Ah, oui. Moi,
hein,
oui.
Complètement, d'accord.
Quand je meurs, je vais au paradis, normalement.
Ouais, normalement.
Enfin, j'espère.
Allez, on va t'absoudre de tous tes péchés, tu iras, c'est sûr.
J'espère, en tout cas.
D'accord. Est-ce que tu as, tiens, c'est des sujets qui intéressent. Vas-y, bois un petit coup, hein, si
ouais,
tu veux.
Oui, je vois que.
Non, parce qu'elle s'est levée tôt, elle a pris la bouteille, elle a fait mine de la reposer. Je dis, vas-y, prends ton temps.
C'est ça.
Je vais poser la question doucement, comme ça. Est-ce que tu, quel, étant né, donc, en Angleterre, d'un papa mécanicien, d'une maman professeure de chant, il y avait déjà un petit peu d'artistique, quand même, dans ta vie, quelque part?
Ah oui, carrément. Moi, ma mère, elle est prof de piano. Ma mère, elle était prof de danse, en fait. Ma grand-mère, elle était prof de chant, prof de piano. Mon père est mécanicien, mais il avait un groupe de musique, disons
ah,
que.
Ah oui, d'accord.
Je suis vraiment née là-dedans. J'ai dansé dès l'âge de 6 ans. J'ai fait une formation de comédie musicale à Londres entre 16 et 19. Et je commençais à travailler dans la comédie musicale à 19 ans à Londres. Donc, du coup, oui, j'ai fait carrément une carrière artistique.
Ah oui, et tu es arrivée en France à quel âge?
21 ans.
21 ans
pour faire du spectacle. Uh-huh. Et j'en ai fait jusqu'à mes 26 ans et après j'ai basculé
dans l'audiovisuel.
Dans l'audiovisuel.
Avec plaisir. Alors, quel rapport tu as, c'est aussi une question que j'aime bien poser aux artistes qui ont un rapport avec la création.
Oui.
Un petit peu différent du, entre parenthèses, commun des mortels. C'est on est obligé d'aller créer quelque chose, de trouver. Et parfois, quand on crée, on a une connexion un petit peu différente avec les mondes de l'invisible. Parce qu'il y a quand on crée, il y a quelque chose qui vous touche et on vous dit, ça vient pas de moi, ça m'a été donné. Tu as cette sensation parfois?
Oui, j'adore créer. Déjà, j'ai créé beaucoup de chorégraphies, beaucoup de comment dire, de routines pour des spectacles, parce que j'ai travaillé sur des spectacles théâtrales, des pièces de Shakespeare en version comédie musicale quand j'étais en Grande-Bretagne. Maintenant, j'ai une boîte de production, donc.
Tu as monté ta société.
Ouais, je suis pas toute seule. Hein. J'ai monté une société de production avec plusieurs personnes. dans Eric Newton, qui a une boîte de prod qui s'appelle Home. Et Home, c'est des émissions musicales. Il crée des émissions musicales pour W9 et M6, le groupe. Et donc, du coup, il m'a demandé de les rejoindre. Donc, ce que je voulais dire par ça, c'est que on a des réunions de création. Donc, c'est vrai que on est amené tous les jours à réfléchir, à accoucher, à sortir des idées qui sont un petit peu intéressantes et différentes de ce qu'on voit au quotidien. Enfin, c'est le but.
Ouais. Et t'as pas l'impression que de temps en temps, ça t'est donné un petit peu comme ça qu'on te touche du doigt en disant bon tiens allez ça c'est une idée que je te donne.
Je pense que ça arrive rarement. Je pense que la créativité c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on travaille. Je pense que ça arrive de temps en temps avec un projet qui est vraiment personnel. Disons que ça a pu m'arriver plusieurs fois dans ma vie, mais c'est surtout quand c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu le cultives, que tu le... Pour moi, c'est nous qui le créons. Et puis, puisque je suis croyante, je peux prier pour que ça
m'arrive. Ça se travaille,
aussi.
Donc. Ouais. La créativité se travaille.
Oui, pour moi,
on se connecte, on connecte nos neurones pour aller chercher un regard différent sur la vie et
puis on se nourrit, en fait. En se nourrissant de plein de choses différentes, du coup, pour moi, ça cultive la créativité. Aussi, la créativité, c'est aussi c'est aussi la connaissance pour moi.
C'est-à-dire, la créativité, c'est aussi la connaissance.
Disons que pour être créatif, il faut être nourri, pour moi. Donc, si on a beaucoup de références, qu'on a beaucoup lu, qu'on a beaucoup entendu, qu'on a beaucoup regardé, enfin, je veux dire, écouté, je trouve qu'on est plus créatif puisqu'on a un savoir à la base et on se base sur ça et ensuite ça nous donne la possibilité de créer.
D'accord. On se nourrit d'autre chose.
Oui,
ça a du sens parce qu'on se nourrit de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et on le passe au filtre de notre propre personnalité, de nos besoins, et on le ressort d'une autre façon.
Exactement.
C'est un peu ça la créativité.
Pour moi,
on n'est pas touché du doigt par Dieu le Père en disant tiens, je vais te donner une idée, celle-là elle est excellente, vas-y produis. Mais non.
Ça peut arriver, je pense, parce que Dieu est tout puissant pour moi, mais je pense qu'on le cultive, le travaille.
Quelle petite fille étais-tu? Parce que finalement, tu parles beaucoup de religion, ça. Tu allais beaucoup à l'église protestante. Tu priais beaucoup.
Ah oui. J'étais à une école protestante très chrétienne, très croyante. On avait la prière tous les matins. Ensuite, j'allais au club le midi. On allait en vacances. J'allais en vacances dans des camps chrétiennes.
D'accord.
Chaque été. Oui, très croyante. Bon, après, je suis pas...
Pratiquante tous les jours.
Si, pratiquante tous les jours, mais je suis pas... Ça effraie certaines, la religion, je pense, puisque... disons que quand on s'est marié avec mon mari, lui, il est catholique et moi, je suis protestante. Alors, moi, je suis beaucoup plus pratiquante que lui. Et on a eu cette discussion, est-ce qu'on se marie dans une église catholique ou protestante? Bon. Mon église est très ouverte. On a un groupe de musique rock dans l'église.
Ah, ça c'est bien ça. Rien que déjà ça c'est bien ça.
Et du chant et tout. C'est pas poussiéreux. C'est ouvert à tout le monde. C'est joyeux. C'est pas. Disons que je respecte tout le monde, mais la religion catholique parfois a tendance à.
À apporter une notion de tristesse et de mélancolie qu'il n'y a pas.
On se flagelle parce qu'on a péché. Alors que dans la religion chrétienne protestante, on focalise sur la croix. Et
mais parce que Marie n'a pas fauté dans la religion protestante. Ouais. Voilà, donc on ne s'auto-flagelle pas.
Enfin, c'est pas forcément le cas tout le temps, mais je trouve que ça a une image un peu poussiéreuse. On est vraiment focalisé sur la souffrance, qui je néglige pas. Mais en revanche, c'est pas forcément tout le temps très positif. L'image n'est pas très positive.
C'est pour ça que tu as toujours ce dynamisme et cette espèce de charisme autour de toi, parce que tu as pas effectivement toute cette pesanteur qu'on a pu donner à certains dans l'Église catholique tout au long de son enfance, et une sorte de punition, voilà, parce que l'Église catholique, c'est
mon mari me disait ça, il me dit c'est incroyable cette Église, j'adore.
C'est
extraordinaire, il me dit moi.
Ça explique ta personnalité.
Je me reconvertis tout de suite. Bon, après, je viens d'une famille, on n'avait pas ça fait un peu la pauvresse, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. On n'est pas souvent parti en vacances, mais disons que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin.
L'amour.
Et, ouais, l'amour. Et je remercie mes parents pour ça, donc j'étais peut-être pas gâtés matériellement, mais je trouve qu'ils ont fait du bon travail.
Ouais, je confirme. Tu bouges pas, on fait une petite pause, je voudrais vous parler des rencontres du mystère et de l'inexpliqué.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Alors, si le 13 et 14 juin, Louise, t'as un petit moment de libre dans tout ton emploi du temps, entre les matinales, tout ça, avec Bob, est organisé les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, c'est dans le 15e arrondissement à Paris. Ouais. Donc c'est beaucoup de conférenciers, ça commence par exemple le vendredi après-midi de 13h30 à 14h30 avec Montan Giraud pour les enfants indigo. On parlera des pyramides de Bosnie également, le samedi au programme Le passé et la mémoire du futur avec Jean-Pierre Garnier. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conférences, c'est vraiment super, il y en a plus le samedi que le vendredi. Chose très très importante, vous ne pouvez, vous qui nous écoutez, vous inscrire que sur le site internet. Pas d'achat de billets le jour même, donc vous y allez, vous regardez dans la rubrique événements, vous trouvez forcément envie de prendre un billet et venez nous rejoindre parce qu'on y sera évidemment. Et pour que ce soit encore un petit peu plus clair, écoutez ça.
Bob vous dit toute la vérité présente, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets en cliquant sur l'onglet prévu à cet effet.
Voilà, rendez-vous le 13 et 14 juin. Et puis tous les jours, sur cette radio, Bob vous dit toute la vérité.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Et surtout Louise Eklund, aujourd'hui. Ça va pas trop perturbé par tout ça, par l'inexpliqué, l'inconnu, tout ça? Ça va, ce premier quart d'heure d'émission?
Ça va, ça va.
T'es à l'aise avec tout ça?
À l'aise, en fait, tu me poses des questions et du coup, j'ai jamais été confrontée à ce genre de questions auparavant, donc c'est quand même assez intéressant. Puis d'ailleurs, je découvre des choses par rapport à moi à travers tes questions, ce qui est assez bizarre. Mais bon, c'est intéressant.
Ça me fait très plaisir ce que tu dis parce que on a reçu beaucoup de personnes déjà, de Alexandre Debanne que je connais depuis 30 ans et bien d'autres personnes, Babette de Rosière que tu connais également. Et toutes ont eu un petit peu ça. On s'est jamais posé la question et maintenant que tu nous le dis, et finalement, c'est une sorte d'introspection. Alors, c'est pas une psychanalyse, mais ça vous amène à nous dire des choses passionnantes sur votre personnalité et on vous connaît un petit peu mieux parce que c'est vrai que dans les médias, on prend pas le temps en général de vraiment vous écouter sur ces sujets ou autres.
On te pose des questions sur ton actualité en général. Ouais. Et puis d'ailleurs, après, il y a des sujets. Je sais pas pourquoi on a parlé pas mal de religion, mais disant que j'en ai jamais parlé auparavant, j'ai pas l'intention de saouler les gens avec, mais c'est juste que ça fait partie de moi.
Ben nous, ça nous intéresse.
Ouais, non, mais c'est marrant.
Alors, comme tu es très très religieuse, en tout cas très croyante, est-ce que tu as déjà comment tu abordes le paranormal? En tout cas, ce qu'on met dans...
Je l'aborde pas.
Tu l'abordes pas du tout?
Non, ça m'intéresse pas du tout.
Et pourtant, quand...
c'est pas que ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont qui existent, mais je pense pas que ça vient du bien. Je pense que ça vient du mal. Et donc, du coup, ça, j'ai pas envie d'aller vers là-bas.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu mets exactement derrière ce mot paranormal, en fait? La sorcellerie, des choses comme ça, des choses noires plutôt?
C'est très compliqué. Hein. Après, l'astral, ça va pour moi, parce que l'astrologie, ça c'est intéressant. Il y a des choses qui sont étudiées, prouvées, etc. À vrai dire, je ne connais pas grand chose parce que j'ai toujours été, assez éloignée de ce milieu-là. Donc, comment je pourrais te dire ça? Paranormal, pour moi, j'aime pas tout ce qui est médium, voyance. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de rentrer là-dedans.
Alors, la grande question, est-ce que ça te fait peur?
Je pense que oui. Oui. Je pense que ça me fait peur. Je pense que si jamais j'étais amenée à faire une voyance ou quelque chose, je pense qu'il pourrait me dire des choses vraies. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons. En revanche, je n'ai pas envie de savoir parce que je pense que ça pourrait m'influencer, mais pas forcément bien. Et d'ailleurs, je suis pas convaincue que ça vienne de Dieu, donc j'ai pas très envie de savoir.
Ouais, d'accord. Ça, ouais, ouais, tu, oh, ça te fait un petit peu peur et en même temps c'est, oui. C'est étonnant parce qu'on a un métier plein d'incertitudes. Donc peut-être que certaines personnes dans ton cas chercheraient à se rassurer.
Connais beaucoup qui sont faire des voyances, qui cherchent des réponses à plein de choses, etc. Ouais. Oui, j'en connais beaucoup, mais pour mon cas, il y a des gens qui ont du talent, il y a beaucoup de charlatans.
Ouais.
Donc, pour moi, ce n'est pas un milieu qui m'intéresse beaucoup.
Tu t'en méfies?
Je garde mes distances, on va dire.
D'accord. Est-ce que tu n'as jamais vécu de phénomène? Alors, quand je dis paranormaux, c'est-à-dire une intuition, on dit tiens, j'ai rêvé quelque chose et ça arrive, ou de phénomène un petit peu étrange pour toi, ta famille ou tes amis. Tu n'as jamais eu des retours comme ça? Quelqu'un qui est au téléphone, t'as dit quelque chose, attention, fais attention, il va se passer ça, et le lendemain, ça c'est... Jamais. Ou est-ce que tu n'as jamais été attentif à ces signes?
Non, je ne pense pas que je suis forcément... Je pense que je suis sensible aux autres et à l'écoute et qu'il y a parfois que tu ressens des choses chez les gens. Je pense que j'ai un instinct de femme, donc il y a certaines choses qu'on ressent. En revanche, non, je ne cherche pas forcément de signes comme ça. Il y a parfois, tu te dis, ah, je le savais.
Alors, mais cette intuition féminine, c'est quand même la lecture de quelque chose.
Oui, je pense que c'est la lecture de quelque chose, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Le langage du corps, parce qu'il y a quand même 90%, voire plus de communication qui est fait...
Langage non-verbal.
Non-verbal. Moi, j'ai étudié le langage du corps avec mes cours de comédie, parce que c'est très, très important pour... communication dans les cours de comédie. Et donc, du coup, on arrive à lire certaines choses. On arrive à lire quand quelqu'un est mal à l'aise. Moi, j'ai aussi étudié comment réussir un entretien aussi.
Ah, ça,
donc,
c'est bien, ça.
C'est très intéressant parce qu'il faut aussi s'ouvrir à la personne qui est en face, faire en sorte qu'il est ouvert à toi, qu'il puisse t'écouter. S'il ne t'écoute pas, comment faire en sorte qu'il t'écoute?
Te synchroniser avec lui?
Synchroniser, non. Mais par exemple, tu ne m'écoutes pas et tu es en train de faire d'autres choses. Je te donne quelque chose dans les mains. Comme ça, tu es obligé d'ouvrir tes bras pour le prendre. Et donc, du coup, tu es tout de suite plus ouverte à m'écouter. Enfin, c'est plein de techniques différentes, mais c'est assez intéressant.
Très intéressant.
Oui, c'est de la lecture. C'est d'être à l'écoute parce que je pense qu'il y a... Peut-être moins d'écoute aujourd'hui, on parle beaucoup de nous. D'ailleurs, tu me demandes de parler de moi,
mais c'est ça
j'aime
qui
bien
nous
écouter les autres.
Oui, oui.
Donc,
c'est pas facile de parler de soi et de parler de ça. C'est pour ça que je te remercie d'être venu et de prendre le temps de le faire, parce que c'est assez, pas impudique, parce que c'est vraiment des sujets qui nous réunissent tous sur cette web radio, mais c'est pas facile.
Je ne suis pas gênée, mais c'est vrai que c'est des sujets auxquels tu aimerais parfois réfléchir un peu plus. Où tu me poses une question et tu te dis alors là il faut que tu trouves une réponse mais je suis pas sûre que c'est la bonne ou...
D'accord, prends le temps.
Tu comprends ce que je veux dire?
Bien sûr, tout à fait.
C'est assez marrant, mais donc, je sais plus où on était. Bon.
Mais non, si moi je sais. Donc par rapport à tout ça, la question qui pourrait être sous-jacente, c'est est-ce que tu crois qu'on a un libre arbitre ou est-ce que tout est déjà écrit? Parce que t'as un destin un petit peu hors norme, on peut le dire. T'es quand même connu, t'es arrivé en France. La probabilité que la petite fille de Liverpool soit aujourd'hui face à moi pour parler d'une matinale sur une FM nationale et d'être sur une chaîne nationale française est quand même faible. Est-ce qu'il y a quand même un destin derrière tout ça?
Oui, c'est du travail aussi, je pense. J'ai beaucoup travaillé, dur même. Mais oui, je pense que tout est écrit. Je pense que mon chemin est tracé. Les décisions que je vais prendre, c'est des décisions que j'aurai prises. Avec des leçons que j'ai besoin de vivre à chaque fois. Ma vie n'est... En fait, j'ai énormément de chance et je me rends compte. J'ai la chance d'avoir vécu des choses exceptionnelles. Un pays qui m'a accueilli. J'ai un homme qui m'aime. J'ai un petit garçon qui est sublime. J'ai vraiment énormément de chance et j'adore mon boulot, ce qui est...
Alors, ça, c'est la totale.
Top
ça.
Du top. Donc, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Il y a des moments où ça n'a pas été facile non plus. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que...
Quand ça n'a pas été facile, tu t'es raccroché à
c'est des leçons. C'est des choses que j'ai besoin d'apprendre pour moi.
Ouais.
J'apprends beaucoup plus. On apprend beaucoup plus souvent dans la douleur, malheureusement.
Ouais.
Mais
tu te raccrochais à quoi quand ça allait pas? À ton destin, en disant de toute façon, mon destin, c'est de progresser, d'arriver à une certaine ambition? Ou est-ce que ça te disait non, j'ai un libre arbitre, je vais travailler plus fort encore pour y arriver?
Ben, il y a toujours de l'espoir. Hein. Disons que dans des moments où ça va pas, on a tendance à se dire pourquoi moi, en fait. Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi ça va pas? Mais c'est souvent nécessaire pour la suite de l'aventure. C'est des choses qu'on a besoin. Si ça allait bien, enfin, c'est très simple et c'est très basique, mais c'est vrai, si ça allait bien tous les jours, on n'apprécierait pas forcément les bons moments. Donc, pour moi, c'est des trajets. Enfin, c'est nécessaire de vivre certaines choses qui sont difficiles pour pouvoir avancer et suivre son destin, justement.
Si on en tire les leçons, parce qu'il faut en tirer les leçons, ça aussi, il faut l'analyser.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Sinon,
on n'est pas capable.
Sur le moment, parfois après.
Parce qu'on a beaucoup de souffrance, que ça va pas. Mais oui, si on en tire les leçons, qu'on reste humble et on s'écoute, je pense que ça nous permet d'avancer.
Donc, pour toi, tout est écrit. Ben alors pourquoi bosser? Allez, tu te poses sur un canapé, t'attends que ça vienne.
Non,
parce que quelle est la part? Tu me dis j'ai beaucoup travaillé, mais c'est un peu paradoxal parce que si tout est écrit, on n'a pas besoin de beaucoup travailler, on a besoin juste d'accompagner un destin. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu paradoxal en même temps.
Oui, c'est paradoxal, mais je veux dire mon chemin est guidé.
D'accord, guidé.
C'est plutôt ça. Alors tout est écrit, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais disons que mon chemin est guidé. Je pense que, quand on croit ou quand on est croyant, on a une certaine spiritualité, ça va nous aider à avancer, prendre le bon chemin, en fait.
Ouais. Tu médites ou tu pries, c'est pareil, tous les jours, tu fais ça?
Je prie tous les soirs.
Ouais.
Avant de me coucher.
D'accord. C'est une sorte de méditation, hein.
Ouais, avant de me coucher, je remercie Dieu pour ce que j'ai, et puis je prie pour des gens qui ont besoin. Et
pas que pour toi, c'est pas juste égoïste pour toi, ton fils et ton.
Je prie pas. Aussi, parfois je prie pour moi, évidemment, mais non, des gens qui en ont besoin. Ma mère, elle se fait opérer ce matin, par exemple, donc j'ai prié pour elle hier soir.
D'accord.
Elle est en ce moment même en train de se faire opérer, je crois.
Donc, pas trop grave, quand même.
Non, c'est rien de bien grave, mais quand même, c'est anesthésie générale, etc. Mmh. Elle a 67 ans, donc.
C'est jamais anodin.
C'est jamais anodin.
D'accord. À quelle petite fille étais-tu, toi? Est-ce que tu étais plutôt timide? Est-ce que tu étais curieuse? Est-ce qu'au contraire, tu étais un peu dans ton coin, que ce métier t'a amené à te révéler?
J'étais extravertie.
Ah, déjà? Ah ouais, bon, ça va. T'as suivi ton chemin et ton caractère, quoi.
Extravertie. Assez sage. J'ai beaucoup travaillé parce que ça venait pas forcément facilement. Ce qui vient facilement pour moi, c'est les langues et tout ce qui est danse, chant, comédie, artistique. Tout ce qui était maths, sciences, etc. J'étais mauvaise, nulle.
Ah, t'es plutôt cerveau droit que cerveau gauche. Hein, donc, on peut pas tout avoir non plus. Hein.
Non, mais il fallait que je travaille beaucoup. Et puis pour tout ce que j'ai toujours beaucoup travaillé, sauf le français, bizarrement.
Tu l'as appris toute seule?
Oui, en venant en France, j'ai jamais pris de cours. Donc, j'ai beaucoup lu, j'adorais le français à l'école, déjà, jusqu'à l'âge de 16 ans, mais je savais dire pour aller à la gare et est-ce que je peux avoir une baguette. Donc, c'est à peu près tout, quoi. Que, tu sais, quand t'as 16 ans, c'est ce que tu apprends. Après, je sais pas pourquoi, mais.
Ça t'est venu naturellement. T'as appris le français comme ça. Tu parles d'autres langues, bon, l'anglais, d'accord.
J'ai l'impression d'avoir été française dans une autre vie.
Ou, enfin, ça me plaît bien dans une autre vie.
Oui, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça vient facilement, bizarrement.
Tu penses qu'on peut se réincarner? Tu penses qu'il y a des réincarnations ou, par rapport à tes croyances?
C'est pas en rapport avec mes croyances.
Non. Donc, voilà.
Mais si tu me demandes si j'ai un pressentiment ou quelque chose comme ça, le seul fois, je pense, dans ma vie où je me suis dit, oula, je parle français très très bien et très vite, donc ça m'est familier. Il y a quelque chose qui est assez bizarre dans tout ça.
Comme une sorte de mémoire ancienne?
Oui. C'est assez bizarre parce qu'en 6 mois, je parlais français.
6 mois?
Oui.
Alors que c'est une langue quand même très difficile.
J'avais beaucoup plus d'accent, je faisais beaucoup plus de fautes entre les « le » et les « là », mais j'arrivais à communiquer bien, déjà. Et bizarrement, je ne savais pas que j'avais un don. J'ai vraiment un don pour le français.
Ah, pour le français, pas seulement pour toutes les langues, juste pour le français.
Non, pour le français, je sais pas, pour toutes les langues, j'ai jamais voyagé ailleurs, vraiment.
D'accord.
Enfin, si, 2 semaines en Italie et 1 semaine en Espagne, mais je sais pas, j'ai jamais essayé de parler d'autres langues.
Alors, dans tout ce que tu dis, il y a quand même plein de choses qui nous intéressent, et moi qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'avais un don pour cette langue, elle m'est venue facilement, j'avais l'impression d'être déjà là, d'avoir des connexions avec ce pays.
Ouais.
Ouais, on est dans la réincarnation, dans une sorte de mémoire ancienne qui est là, quoi, qui est autour.
Oui, peut-être. Je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer. Je mettrai pas ça dans le panier de la réincarnation. Mais en tout cas, c'est étrange. C'est quelque chose qui me touche.
Ça t'est déjà arrivé peut-être d'être dans des lieux où tu te dis, c'est marrant, j'ai l'impression d'être déjà venu ici, de connaître l'endroit ou d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu des choses.
C'est marrant parce qu'en anglais, on utilise ce terme. On dit, je viens d'avoir un déjà vu.
Déjà vu, c'est le terme français.
C'est un terme français
qu'on
utilise dans la langue anglaise. On dit Oh, I've just had a déjà vu. Tu vois. Donc.
Je savais pas.
Oui, c'est assez marrant. Oui, je pense qu'on a tous eu ça. On a l'impression d'avoir été quelque part, qu'on a l'impression d'avoir eu la conversation auparavant avec quelqu'un. Oui, mais.
C'est quoi, intuition, prémonition, juste lecture de. Tu sais qu'il est prouvé maintenant avec les neurosciences que le cerveau voit et agit avant que le corps n'agisse. C'est-à-dire, on a une sorte de prémonition de quelques millisecondes parfois.
Ouais.
Donc, c'est peut-être juste ça.
Peut-être. Moi, je dirais que c'est plutôt ça pour moi, mais en revanche, je suis pas fermée, hein. Je suis très ouverte.
Ouais,
si les
ça.
Gens veulent m'en parler d'autres choses, je suis toujours à l'écoute. En tout cas, ma vie a été guidée dans cette façon-là. J'ai mes convictions. Après, je suis pas quelqu'un de fermé.
T'avais pas une grand-mère ou une tante qui était liseuse de lignes de la main, de trucs comme ça, artiste. Oh, ma fille, tu seras célèbre en France, je le vois, c'était ton destin.
Non, pas du tout.
Dommage,
j'ai rencontré quelqu'un dans le métro une fois qui m'a dit, tu as un grand destin en France, tu seras grande, ma fille. Et j'ai couru et je l'ai fui.
Tu lui as pas donné 150 euros.
Non.
C'est vrai que si t'avais dit, tu vas vraiment galérer, tu vas être dans la mouise, de toute façon, dans 6 mois, tu es au chômage et tu vas rentrer chez toi, c'est moins drôle. On a moins envie de lui donner de l'argent déjà tout de suite. Voilà.
Et je connais un voyant assez bien aussi, mais c'est quelqu'un de très connu en France aussi dans le milieu et je l'adore. C'est un homme extraordinaire, mais il sait très bien, il le ressent, que j'ai pas envie de parler de tout ça, donc il me dit rien. C'est un respect mutuel qu'on a. Je respecte son métier, il respecte qui je suis et mes convictions.
Et pourtant, il doit avoir envie de temps en temps de dire des choses parce qu'il doit forcément lire quand il y a des intuitions comme ça.
Il lit tout, lui. Et c'est assez exceptionnel, mais il ressent déjà chez moi que j'ai peur ou je n'ai pas envie.
Ouais, j'ai peur ou j'ai pas envie, ça c'est pas mal. Mais tu as la preuve qu'une personne avec d'autres personnes peut trouver le passé d'une vie et peut-être deviner des événements futurs.
Je pense.
Quand on a un ami médium, c'est pas un hasard.
C'est pas vraiment un ami, c'est un...
Connaissance.
Connaissance.
D'accord. On fait une petite pause, tu bouges pas.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Ça, ça lui permettra de boire un petit coup. C'est 4h du matin, à force de parler. Tu parles autant sur la matinale, sur RTL2?
On a 50 minutes sur 3 heures.
Waouh, wow, c'est beaucoup. C'est du travail, il faut le préparer. Hein.
Donc, oui, il y a pas mal de travail en amont aussi. Ouais. Mais ça va. C'est chouette, c'est que du plaisir.
Et puis, t'aimes ça. Ouais. Bon, nous aussi, on a beaucoup d'émissions dans lesquelles beaucoup de personnes travaillent. Ça commence à 14h jusqu'à 15h avec François Desmier. Et si on allait mieux, vraiment des invités très, très intéressants pour voir un petit peu la vie sous un angle différent, avec des solutions souvent, parce que c'est pas du tout anxiogène, c'est vraiment des solutions si vous posez des questions sur la nourriture, il y a forcément un invité dans la semaine qui va vous apporter quelques réponses, quelques solutions. Donc vraiment, on vous le conseille. Les 6 premières minutes de chaque émission sont en libre accès. Allez-y, testez. Ensuite, nous avons Mr. Mathieu. Toute votre vérité. Alors là, c'est libre antenne, hein, tout simplement.
Oui, c'est une libre antenne que je vous propose tous les soirs de 20h à 21h. On parle de votre passé, de votre présent et de votre futur avec des experts, avec des voyants, avec des médiums, avec toutes ces personnes qui ont des facultés que je n'ai pas du tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'observe.
Donc toi, tu as d'autres facultés. Engloutir un sandwich en 30 secondes à l'antenne.
Ouais,
et le mâcher sans que ça s'entende. C'est une faculté comme une autre, je veux dire.
Je sais le faire. En tout cas, non, voilà, tous les soirs, petite libre antenne, c'est rien que pour vous, c'est en libre accès en plus. Donc, voilà, si vous voulez participer à l'émission, Mathieu avec un seul T @bob-toutelavérité.fr.
Et c'est gratuit. Si vous voulez aller plus loin avec les médiums et astrologues, c'est de votre responsabilité. Et puis ensuite, à partir de 21h, The Master, Bob, bien sûr. Bob vous dit toute la vérité. Parapsychologie, lobby, ovni, secret d'état. Il y a forcément plusieurs invités dans la semaine qui vous passionneront. Vous les testez. Vous prenez un petit podcast, vous l'achetez, comme ça, vous écoutez. Et après, vous vous abonnerez, c'est certain.
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h, avec Yves Cara.
Et avec notre croyante, Louise Eklund. Tu es cathodique, en tout cas.
Cathodique, ça veut dire quoi?
Cathodique. Tu sais, cathodique, c'est ce qu'on appelait la télé était cathodique avant, tu sais, on avait...
Ah,
tu
connaissais.
Non, cathodique, c'était...
Ah, le tube, là.
Le tube cathodique. Avant, dans les télés, avant que ce soit des écrans plats, il y avait des tubes cathodiques. Et on disait, je suis cathodique, pratiquant télé ou France 2, tout ça. Mais c'est un terme, quand on est anglaise...
C'est un jeu de mots, en fait.
Voilà, c'est un jeu de mots. Miss.
Ah, dis donc, oui, je suis cathodique.
C'est sûr,
alors.
Quand on bosse avec Christophe Nicolas, au niveau des jeux de mots, c'est pauvre. Hein. Le mec est un peu jaloux, tu sais, qui balance. Pas du tout, j'adore, je plaisantais, bien sûr. Donc, tu es protestante.
Et
catholique et croyante.
Ça marche.
Alors, allons-y. Ça, voilà, on a fait le tour. Louise Eklund, donc, je vous le redis, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, parce que vous l'avez podcasté, vous l'avez loupé, c'est vraiment l'animatrice qui monte dans le paysage audiovisuel français, et c'est un vrai bonheur. Et France Télévisions ne s'y est pas trompé, d'ailleurs. On te retrouvera prochainement sur France Télé. Est-ce que tu vas arriver à caser ça dans ton emploi du temps?
Oui, bien sûr. J'attends d'ailleurs un coup de fil cette semaine pour savoir ce qui se passe.
Qui doit t'appeler, le Big Chief?
Le Big Chief ou celui qui est juste en dessous, en fait, du service bord, qui s'appelle François Brabant. Donc j'attends.
François Brabant, oui.
J'attends un coup de fil cette semaine pour savoir ce qui se passe, parce qu'il y a du changement sur Roland Garros, parce qu'on partage les droits avec Europe. Eurosport,
oui, maintenant.
Pardon. Donc du coup, je sais pas exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Enfin, j'espère partir surtout sur le Tour de France.
Quelle belle aventure, ça.
C'est
bon, ça.
Super, hein. Chouette, ouais.
Tu fais du sport, voilà. Toi?
Ouais, j'en fais beaucoup, ouais.
Tous les jours, de la gym, de l'entretien.
Bah, quand on a été danseur, c'est difficile d'arrêter. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de sport. J'ai un coach, en fait.
Très parisien, ça. J'ai un coach qui vient tous les jours à la maison.
Non, c'est pas ça. En fait,
je plaisante.
Si tu veux. Avec la fille de la garde partagée, on devait récupérer après notre accouchement. Et donc, du coup, on a décidé de le faire ensemble. Et alors, c'est assez spécifique quand tu viens d'accoucher parce que tu peux pas tout faire. Donc, on a pris quelqu'un qui s'occupe de nous. C'est 20 euros chacun.
Wow, ça va.
Ça va.
Tout à fait raisonnable. Tout à fait raisonnable. Bon, quand on gagne 25 000 euros par mois aussi, on peut se permettre.
Donc, exactement. Et donc, du coup. Je sais. Et donc, du coup, on le fait deux fois par semaine.
Bien, d'accord.
Ce que je trouve pas mal.
Bah, c'est bien. Faut deux, trois fois, c'est le minimum. Hein. Après, faut
disons
pas
que
moins,
pour nous, on a un peu de récupération avant de pouvoir se jeter à fond dans le sport. Donc,
pour pas faire n'importe quoi. Donc, ce sera le Tour de France sûr et peut-être Roland Garros avant.
Ouais, j'espère.
Tu pourrais y être quasiment au quotidien sur France Télévisions. Je suis sûr qu'ils t'ont fait des propositions déjà. Peut-être
Là, il y a un essai pour quelque chose. Je fais un essai la semaine prochaine.
Je l'ai vu dans tes yeux, ça, qu'il y avait quelque chose.
Ouais. Et puis. Un autre groupe, je suis à mon troisième rendez-vous. Donc,
dans un autre groupe de télé?
Oui.
Tu quitterais France Télévisions?
Je ne sais pas encore. Je n'ai pas de proposition ferme. Donc,
un autre groupe, qu'est-ce que ça peut être? TF1. C'est TF1.
Je ne dirais pas.
Sur TF1. Allez, un petit scoop, Jean-Plain, Louise.
Mais non, c'est cool. C'est bien.
C'est bien quand on est demandé, quand on est aimé.
Ça bouge. Mais France Télévisions, j'adore. J'ai beaucoup. Expérimenté là-bas, j'ai fait des choses extraordinaires. Donc,
oui, puis en plus, dans la pléiade de personnes qui pourraient être à l'antenne et qui pourraient appeler, c'est toi qui les appelles. Donc c'est pas un hasard, c'est que tu leur as vraiment apporté quelque chose sur beaucoup d'épreuves. Et peut-être cette vision un peu étrangère, au-delà de ton petit accent charmant, mais il y a beaucoup plus de professionnalisme et de travail aussi, parce que tu travailles beaucoup, hein, faut le dire quand même, pour préparer tes émissions et tes fiches.
Ouais, hein? Je suis un peu maniaque à ce niveau-là, j'aime bien tout savoir, surtout, entrer dans les détails. Oui, disons que j'ai sûrement une certaine ouverture et une vision complètement différente de la France qui aide aussi, et puis une culture qui est différente. Je pense que les Anglais, ça étonne les Français souvent, parce qu'on est assez ouvert, on va parler de tout, sans gêne, où on va aller facilement vers les gens. Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent. Je pense que les Anglais sont comme ça. Ils sont
Bah, tu sais, quand on est à Londres, on ouvre une carte, il y a des gens qui viennent vers vous pour vous. Vous avez besoin d'aide. Ouais. En France, c'est plutôt poussez-vous, s'il vous plaît, avec votre carte, vous prenez toute la place, quoi.
Alors que quand on chope les Français individuellement, ben, il n'y a aucun problème, ils sont tous très ouverts. Mais je veux dire, en masse, c'est vrai que c'est chacun un peu pour soi. Les voitures, le métro, le train, etc. Mais bon. J'ai énormément d'amis français, je sais que c'est pas le cas.
Tu les prends un par un parce qu'en groupe ils sont chiants, c'est ça?
Je pense que c'est ça. En groupe, ça va pas.
C'est pas possible. C'est pour ça que t'es avec un Belge d'ailleurs, t'es mariée avec un Belge.
Oui. Hein?
Et voilà. Elle aurait pu se marier avec un Français, elle a choisi un Belge.
On rigole bien, quoi.
Oui, ah bah oui, les histoires anglaises.
On boit de la bière, et puis voilà.
Les histoires anglaises et belges, ça doit être pas mal à la maison.
Oui, c'est clair.
Sacha, il va parler belge, anglais, français.
C'est ça, il parle déjà le belge, tu
sais. Parle déjà le belge, hein. Ouais. Mais avec un accent, c'est bizarre.
Une fois.
Bon, et si on prenait un petit peu de hauteur, tout ça, on a été dans le ciel, on a été dans Dieu, tout ça. La question, parce que ça intéresse beaucoup nos auditeurs, elle me regarde, elle baisse la tête, elle dit, oula, qu'est-ce qu'il va me demander?
Vas-y.
Est-ce que tu penses qu'il y a une vie extraterrestre?
Oui, je pense qu'on peut pas être seul sur cette planète, quoi. Oui,
ouais.
Oui, je pense qu'il y a autre chose. Après, quoi, comment et où, je suis pas vraiment spécialisée pour te dire. Honnêtement, j'ai pas fait mes recherches, mais j'ai du mal à imaginer qu'on est seul.
D'accord, donc c'est encore une fois une preuve d'ouverture d'esprit.
Hein, ouais, j'ai du mal à croire que. Tellement immense qu'il doit y avoir autre chose.
Ouais. Tu sais qu'on a reçu Nelson Montfort dans cette émission que tu connais bien, hein, ouais. Du service des sports de France Télévisions, qui est adorable.
Je l'ai eu au téléphone ce matin, Nelson, justement.
Eh bien oui, écoutez, ça nous fait très plaisir.
Il m'a dit « lots of love
». Eh ouais, c'est vrai, vous parlez
à la fin de la conversation. Oui, en parlant.
Lui, il a vu un ovni.
Ah bon?
Tu savais pas ça?
Non.
Vraiment, c'est pas. Il l'a vu, il en est certain. C'était en 97, si ma mémoire est bonne. Il était à la montagne, au sommet d'une crête. Il a vu un rectangle lumineux, mais très très lumineux, mais pas éblouissant, qui a avancé. Ça a duré 2-3 minutes.
Sûr qu'il n'était pas
Non. Il l'a vu. Avancer très lentement sur la crête d'une montagne. Il était à peu près à 2 km.
Ouais.
Ensuite, ce rectangle a pivoté en direction du ciel.
Non.
A accéléré. Non, mais c'est très. Et puis, il faut pas plaisanter avec lui parce qu'il est sûr de ce qu'il a vu. Hein.
Et
accéléré. Donc mu par une intelligence, c'était pas juste un phénomène comme ça lumineux. Et parti donc pour lui, il y a aucun doute, c'était un ovni. En tout cas, c'était pas un phénomène de météorologique ou autre. Ah, ça t'étonne. Tu parleras de ça avec lui, tu verras.
Bah, je vais lui en parler.
Ouais, tu lui diras qu'il est venu dans l'émission. Il nous a dit des choses passionnantes également, comme toi d'ailleurs, parce que c'est passionnant. Mais lui, au niveau des ovnis, il a vu quelque chose qui était mu par une forme d'intelligence, avec une direction qui était volontaire, c'était pas quelque chose d'erratique.
Mmh.
Donc lui, évidemment, il est ouvert à ça. Alors après, est-ce qu'il y avait les petits bonhommes verts, on sait pas, mais en tout cas, comme toi, il est ouvert à ça, quoi.
Bah écoute, oui, je suis ouvert à ça aussi, peut-être ça pourrait m'arriver un jour. Ça m'est pas arrivé encore, mais j'exclus pas la possibilité, en tout cas.
Tu exclus pas la possibilité qu'un jour on se réveille un matin, moi. Tu sais, par exemple, on va prendre autre chose, le mur de Berlin qui tombe en 89, la veille, on savait rien, on se réveille le matin, il est tombé et le bloc URSS explose et le communisme explose.
Mm.
T'as pas l'impression qu'un jour on pourrait se réveiller comme ça un matin et puis que d'Amérique, comme on a eu les tours, qui était quand même un truc incroyable, on se réveille en disant, bah regardez, un ovni est en position stationnaire autour d'une grande ville.
Oui, tout est possible.
Ouais.
Pour moi, oui, tout est possible, pourquoi pas. Après, c'est pas le premier scénario qui m'arrive en tête. Après, c'est plus l'attentat ou des choses un peu plus, comment dire,
dramatiques.
Oui. Je pense que c'est fort possible. Ouais. Oui.
Je parlais plus par rapport aux extraterrestres, hein, d'avoir quelque chose. Tu penses que s'ils venaient sur cette Terre, ce serait pas forcément avec des idées pacifiques?
Oula.
Eh ouais.
Je sais pas, Yves. J'ai jamais pensé à ça.
Non, parce que Hubert Reeves, je lui avais posé la question il y a quelques années, lorsque j'étais à Radio France Internationale, et il m'avait fait cette réponse qu'il a peut-être mise dans un livre, je ne sais pas, mais il m'a dit, tu sais, si ces extraterrestres ont les mêmes intentions que les humains, lorsque technologiquement un peuple est allé dans un autre continent parce qu'ils avaient la technologie pour le faire. Donc une technologie supérieure aux personnes qu'ils rencontraient. En général, c'était pour les détruire. C'était les Portugais lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Sud.
C'était
les Français lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. Et il m'a dit, si les extraterrestres, qui un jour viendront, parce que lui, il en est persuadé, ont les mêmes intentions que les humains, je ne suis pas très optimiste sur la suite. C'était un petit peu ça, quoi.
Ah oui, mais ça se tient à sa théorie, oui, pour montrer sa puissance. Et puis, c'est l'inconnu, donc on vient armé à se protéger parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oui, mais bon, je ne peux pas te dire que j'ai réfléchi longuement au sujet parce que ce n'est pas ce qui me passionne le plus.
D'accord. Dans l'inconnu, ce n'est pas ce qui te passionne le plus.
Non,
pourquoi pas, il y a pas de problème.
Non, c'est pas ce qui me passionne le plus. Je suis consciente qu'il peut y avoir autre chose, mais je vais pas plus loin dans ma réflexion.
Tiens, on va aller sur un autre sujet qui intéresse aussi beaucoup nos auditeurs, abonnés, que Bob aborde souvent, c'est les OGM, la nourriture, tout ça. Est-ce que tu es très sensible à tout ça? Est-ce que tu fais très attention, d'autant plus maintenant que tu as un fils? Donc on fait attention à ce qu'on lui donne, à ce qu'on mange, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des pesticides, est-ce que tu es attentive à tout ça?
Non. L'autre famille avec qui on partage la garde de notre petit et achète des produits bio, donc on achète des produits bio parce que on garde la paix. Mais ça, pour tout te dire, mais non, je j'ai mangé tout et n'importe quoi et je vais bien, hein. Donc plus j'avais pas le choix. Et puis les légumes bio, je suis pas sûre que c'est pas juste plus cher parfois
Et que les pesticides sont quand même dedans, quoi. On ne nous dit pas toute la vérité, quoi, c'est ça.
Pas toujours. Ça dépend où tu les achètes, comment c'est contrôlé, où est-ce que tu les achètes. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis non, c'est pas ma priorité première. En fait.
D'accord.
En revanche, évidemment, je fais attention à ce que mange mon fils. J'espère qu'il mange bien. Je lui donne des bonnes choses. J'achète des légumes bio parce que on partage la garde, donc il mange des légumes bio quand même. Voilà.
C'est bien. Tant qu'à faire.
Oui, pourquoi pas.
T'as une maman qui cuisine.
C'est mon mari qui cuisine.
Ah, la maître. T'as un mari parfait, toi. Hein. Je comprends pourquoi tu l'as épousé.
Il est pas mal. Il cuisine très bien d'ailleurs et il adore faire des petits plats pour nous. Donc ça c'est bien. Moi je suis anglaise, Yves.
Ouais. Ah bah oui, c'est vrai.
Tu vois,
au niveau de la cuisine.
Non, franchement, j'adore manger,
cuisine,
mais non, il vaut mieux pas que je cuisine, franchement. Non, ça va, j'arrive à faire des choses assez simples, mais je suis pas une grande chef.
T'as arrêté la gelée à la groseille, t'as arrêté les trucs comme ça?
Ah non, jamais. J'attends chaque Noël, je veux un gelé. Quand je rentre, mes parents ils me font ça, je mange des beans tous les dimanches, des haricots blonds aux tomates, enfin. Voilà, moi j'aime bien. Puis j'aime un peu tout en modération, en fait.
D'accord.
Tu vois, j'adore les frites, je mange des frites. Je veux un burger, je vais aller chez McDo.
D'accord, tu te prives pas.
En fait. Non.
Oui, mais t'as la chance peut-être aussi de ne pas grossir facilement, d'avoir des bons gènes, non?
Tu sais, j'ai passé la trentaine, disons que je vais vers la quarantaine plutôt, et là, il faut que je fasse un peu plus attention. Mais non, je pense que tout en modération, ça va.
D'accord. Alors, quand on a un fils de quelques mois, j'y reviens parce que c'est important, j'en ai aussi qui sont bien plus grands maintenant. Quel monde tu imagines pour lui et quel monde tu aimerais dans 20-30 ans? Est-ce que tu es optimiste par rapport à tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui?
Est-ce que je suis optimiste? Je suis une éternelle optimiste.
Ah, c'est bon d'entendre ça.
Oui, je suis très positive. Le monde, pour moi, est ce que tu fais de lui. Ça dépend comment il en profite. Et j'espère que nous, on va lui donner des clés pour avancer. On essaie de lui donner une bonne éducation. On passe du temps avec lui parce que je pense que on a des boulots prenants. Donc,
il est dans l'audiovisuel, lui aussi?
Mon mari?
Oui.
Oui, il est producteur. Ouais.
Ah ouais,
il
a une boîte de prod. Ouais. D'accord.
Il travaille beaucoup en Afrique, donc il est pas mal en voyage aussi.
Et quel monde tu vois pour ton enfant plus tard? Est-ce que tu penses que cette surpopulation de plusieurs milliards posera un problème? C'est la surproduction dans les champs, mais de plus en plus de pesticides. Est-ce que tu es optimiste par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses que technologiquement, les hommes vont trouver des solutions grâce à l'intelligence humaine?
Je pense qu'on va devoir trouver des solutions. Je pense que l'homme ne prendra pas, si on n'est pas forcé.
Ah, d'accord, c'est
pour
ça.
Pour moi, on n'arrivera pas. disons qu'il va falloir mettre des choses en place. Je pense que l'être humain est assez égoïste. Donc, du coup, ça sera au gouvernement de mettre des mesures en place assez radicales.
Des mesures radicales.
Mesures radicales pour...
Dernier moment, quand on n'aura plus le choix. C'est
pour nous obliger. Et malheureusement...
Et le remettre sera difficile, d'après toi ?
Non, une fois qu'on l'a adopté, personne n'aime le changement, en fait.
Oui.
Donc, du coup...
Surtout pas les Français.
Surtout pas les Français.
Hein ? On n'aime pas
je
ça.
Je suis entièrement d'accord, oui. Surtout pas les Français. Disons que, oui, je pense qu'on va nous forcer. On va nous forcer la main. On va nous obliger de conduire en dehors des grandes villes, qu'on n'aura plus le droit de ramener les voitures, qu'on aura du transport différent, qu'on aura des lois qui sont mises en place pour ne plus utiliser tel ou tel produit lors de la cultivation de certains aliments. Je pense que...
Résolument optimiste, ça fait du bien d'entendre ça. Non, mais c'est bien.
Je
c'est
pense
bien.
Qu'on on y arrivera, mais...
Ça va faire mal.
On nous forcera la main
un peu. Un petit peu. Comme on a forcé à ralentir les Français sur la route en mettant des radars partout. Hein, c'est un petit peu ça.
Alors ça, c'est un peu plus compliqué pour moi.
Pourquoi ?
À cause des PV. Mais disons que je ne sais pas si c'est...
Vraiment pour ralentir
ou pour
remplir les caisses de la France. Mm-hmm. D'accord. Ah ouais.
Mm-hmm. C'est un grand débat. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais disons que... je suis pas sûr que c'est tout à fait honnête. Voilà.
D'accord, tout à fait honnête. Bah ça, Mister Sarkozy, c'est vous qui l'avez fait. C'est à vous de réfléchir lorsque vous étiez au ministère de l'Intérieur. Bon, en tout cas, c'est très intéressant tout ça. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet que tu connais bien, puisque tu as été sportive et qu'on en a fait beaucoup de danse. Et moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup dans le sport. C'est la force de l'esprit sur le corps, sur le mental.
Oui.
Ça, c'est un sujet passionnant. Obligatoirement qu'on aborde lorsqu'on est une artiste et lorsqu'on fait travailler son corps.
C'est ça.
Est-ce que tu penses qu'on peut tout imposer à son corps, il suffit de le vouloir ?
Je pense que le corps a des limites, certains limites. Tout imposer au corps, non. Ça dépend physiquement, qu'est-ce qu'on fait comme sport, comment on utilise. Réalistiquement parlant, je ne pourrais pas être basketteuse parce que je ne suis pas grande.
Mais tu n'as pas la taille. Est-ce que tu penses que mentalement, on peut vraiment... se dépasser et que le mental peut prendre le pas complètement sur le physique pour l'amener à se sublimer.
Oui.
Ouais.
Oh oui, je pense que oui, tout vient de l'esprit en fait.
Ouais.
Bah, disons que je touche du bois, mais moi je suis jamais malade. Presque jamais malade. Et pourtant, en voyage, etc. Je pense que l'esprit positif et l'énergie positive et comment dire, la force mentale permet de rester en bonne santé. Et donc, du coup, je crois beaucoup au mental, oui.
Ouais, d'accord.
Après, t'as qu'à regarder des gens comme... incroyable, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de sportifs, d'ailleurs. Raphaël Nadal, c'est des machines de guerre. Et c'est pas le corps, c'est l'esprit. Enfin, c'est le corps aussi, parce qu'il s'entraîne, mais si, c'est dans la tête.
Alors lui, c'est vrai que c'est l'exemple type, quoi. C'est d'abord dans la tête, il arrive
moi,
à se sublimer.
Pour moi, c'est l'exemple, le premier exemple. Il lâche rien, il a un mental d'acier, il avance, et puis c'est un agneau. C'est un mec hyper sympa.
Sauf quand il est sur le court, quoi.
Ouais, sauf quand il est sur le court. Sauf quand il est dans son domaine, et puis la performance, et puis... Mais c'est une machine de guerre, quoi. Il est conditionné pour ça. Mm-hmm. Et puis ça commence très petit.
Ouais.
En fait, c'est une discipline de fer.
Et tout le monde ne le supporte pas aussi. Hein. Lui, il avait ça, il était
et
dans...
c'est une éducation aussi.
C'est une éducation, oui.
C'est une éducation, et c'est...
Est-ce que tu penses que le mental... peut amener à une sorte d'auto-guérison, si on se concentre bien sur une douleur, on peut la faire passer avec une sorte d'effet placebo ou de choses comme ça. Est-ce que le pouvoir a un esprit sur la matière, qu'elle soit organique ou pas ?
Peut-être. Je sais pas. J'ai pas eu quelqu'un en face de moi qui a vécu quelque chose comme ça. Et je l'ai pas vécu moi-même. Je pense par la force d'esprit, oui, on peut se guérir d'une certaine manière.
Et oui, puisque tu disais qu'en étant optimiste, en étant résolument positif, on peut éviter les maladies, donc on peut se protéger, donc avoir une influence sur son corps.
Bien sûr, on peut avoir une influence. Après, guérir totalement, ça dépend ce que c'est, ça dépend si c'est une maladie grave. Je ne sais pas, mais je pense pour des petits bobos et des choses assez superficielles, oui, on peut se guérir, ou du moins s'aider à guérir d'une certaine manière. Et je pense que si on a envie de guérir de quelque chose, eh ben, on a beaucoup, beaucoup plus de chances d'y arriver.
La volonté, aussi forte que l'imagination.
Oui, je pense.
Ouais.
Je pense.
Allez, il nous reste encore 5-6 minutes d'émission. C'était passionnant, Louise. Hein, je t'ai amené sur des terrains étonnants pour toi. Hein.
Oui,
ça, toute la journée, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il m'a posé comme question
Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie
Non, rien. Mais c'est vrai que c'est pas habituel d'aborder ces sujets, de prendre le temps. Et ben, nous, ça nous passionne. Et puis, on aime bien un petit peu aller plus profond de cette âme, de ce corps et de cet esprit. Et tu veux que je te dise, on n'est jamais déçu. Ce que tu as dit, c'était déjà très très beau. Et encore quelques questions pour terminer. S'il y avait des endroits à visiter sur cette planète je sais pas, des pyramides, des endroits un petit peu étranges, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu choisirais? Comme ça, une dizaine d'endroits à visiter, comme ça, en te disant, tiens, j'aimerais bien aller là-bas parce que ça me pose question quand même.
Ah, des endroits qui m'intriguent en fait.
Ouais.
Où est-ce que j'aimerais aller? C'est une très bonne question. C'est pas forcément des endroits, c'est des gens. C'est des rencontres, en fait, pour moi. Disons que je pourrais aller aux pyramides ou au Taj Mahal ou autre, mais ça m'excite pas.
C'est les gens qui t'intéressent.
C'est les gens qui m'intéressent.
C'est le magnétisme des gens, l'échange comme ça.
C'est les rencontres, l'échange culturellement. Je trouve ça extraordinaire comment on est éduqué. Par exemple, je suis en train d'étudier des dossiers en ce moment parce que je trouve que on a des problèmes en France, mais on est très fermé sur nous.
On est très franco-français, oui, c'est
sûr. On se regarde beaucoup. Et alors, moi qui ai une double culture déjà, j'ai une double lecture. Donc, je vais me référer à mon pays pour savoir comment on gère le problème, nous, par exemple. Mm-hmm. Mais ça, c'est très fermé aussi parce qu'il faut regarder ailleurs. Il faut s'ouvrir encore plus. Il faut voir comment ils font en Suède. Les parents qui ont 2 ans de congé paternité, qui estiment...
Souvent, le père prend le congé paternité.
Ce qui est vachement important. Les problèmes, comment ils sont... Comment gérer ailleurs.
Ouverture d'esprit. Ouais.
Ça m'intéresse beaucoup. Moi, un des endroits que je préfère au monde, parce que je trouve les gens extraordinaires, c'est en Indonésie.
Ah oui.
Puisqu'il y a un accueil, une gentillesse, une douceur. Les parents ne lèvent jamais la voix. Enfin, c'est dans leur culture. Les enfants n'hurlent pas. Il y a une douceur de vie. Et il y a un accueil qui est assez exceptionnel. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller en vacances plusieurs fois. En revanche, j'aimerais y aller et rentrer chez les gens
et apprendre
plus sur ces personnes-là et vivre une expérience. Donc, c'est plutôt comme ça que j'aimerais...
Il y a une grande spiritualité aussi en Indonésie, une sorte d'acceptation du destin fait que c'est très reposant parce qu'ils n'essaient pas de forcer les choses, ils les acceptent.
Ouais.
Une sorte de carpe diem.
Exactement.
C'est peut-être ça ce qui nous manque, non?
Éventuellement, oui, je pense qu'on est...
Alors, est-ce que l'acceptation, c'est pas aussi un peu de faiblesse? Parce qu'on dit, j'accepte, alors finalement, je ne fais pas bouger les choses.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand les choses vont mal, accepte-les. Ça passe mieux, et puis parfois c'est des leçons, parfois c'est très positif de vivre des choses négatives, en fait, bizarrement.
Oui.
Donc, moi je le vois comme ça, en tout cas. Et puis oui, accepter qu'on a des faiblesses, accepter qu'on est faible sur certains sujets, pleurer parfois, c'est pas grave.
Quand on est une femme, c'est bien quand on est un homme, on n'ose pas trop, ça, il ne faut pas pleurer, il faut se lâcher. Est-ce que ton mari a déjà pleuré devant toi?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Ah, c'est beau ça, d'accord. Non, mais c'est beau d'arriver à cette intimité entre un homme et une femme, de pas se dire non, je suis fort, je ne lui montrerai pas ma faiblesse.
Il a pleuré quand notre fils est né.
Oh, c'est beau, ça, très très sensible, très sensible.
Il était super touché, en fait. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pleurent à ce moment-là parce qu'ils vivent, ils sont cette petite être que nous on a fait, ce qui est juste incroyable.
Ouais, c'est beau, hein. Donc la vie est là.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait? Une pensée, t'as porté la vie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on porte la vie, quand on le sent bouger, tout ça
C'est difficile à décrire. C'est très difficile de mettre des mots dessus, en fait. C'est tellement exceptionnel comme ressenti. C'est d'une beauté absolue. Et c'est difficile d'imaginer comment ta vie va être après. Et ce que tu imagines avant, ce n'est pas ce que tu ressens forcément après. Ouais. Enfin, c'est
mélangé tout ça. Hein.
C'est très mélangé. Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, tout le monde, enfin les femmes bien sûr, ont du mal à mettre des mots dessus.
Oui.
C'est tellement différent de tout le quotidien, de ce qu'on peut vivre, qu'on n'a pas le lexique. On n'a pas l'explication, on n'a pas de mots pour ça.
Je me suis sentie protégée. Protégée et intouchable.
Ah, quand j'étais enceinte. Ça. Protégée et intouchable.
Bizarrement.
une sorte de vie supérieure.
Un espèce de... Non.
D'aura force.
Force autour de toi. Et les choses ne te touchent pas de la même manière. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà.
Bah, c'est magnifique. On va terminer là-dessus.
Bon, voilà.
Miss Louise Eklund, mille fois merci. Vous la retrouvez tous les matins sur RTL2, sur France Télévisions de plus en plus. Peut-être sur un autre groupe audiovisuel.
C'est
en discussion, on le verra bien. En tout cas, sur le petit écran, c'est sûr, elle y sera. En radio aussi. Et merci de cette belle heure de confession. Je sais que c'était pas facile parce que c'est des sujets que on n'a pas l'habitude d'aborder dans les médias ou autres. Ça a été, ça va? C'était pas
très bien, ça va. Bon, je suis pas traumatisée, Yves, tout va bien.
En tout cas, ça a été un bonheur de te recevoir. Merci.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Carra.